L'actualité en France, c'est bien entendu le premier tour de l'élection présidentielle d'il y a 2 jours, dimanche 23 avril. Eh bien, nous allons décrypter les résultats avec notre correspondant à Paris, Frédéric Suteau. Bonjour à vous, Frédéric.
Bonjour, bonjour à tous.
Beaucoup d'enseignements à tirer. Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront donc face à face pour le second tour le 7 mai prochain. Déjà, pour commencer, on peut redonner les scores des 11 candidats.
Emmanuel Macron arrive donc en tête de ce premier tour, le candidat du mouvement En Marche. Il totalise 23,9% des suffrages. En deuxième position, Marine Le Pen pour le Front National. La candidate de l'extrême droite a rassemblé 21,4% des suffrages exprimés. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, ce sera donc effectivement le duel du second tour de cette élection présidentielle. D'ailleurs, cela confirme ce que prédisaient les sondages depuis plus de 2 mois. Il y avait beaucoup de questions sur ces enquêtes d'opinion, sur leur fiabilité au regard de ce qui a pu se passer lors de l'élection de novembre aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, le oui au référendum pour sortir de l'Union européenne, ce que les sondages n'avaient pas vu venir. Eh bien, cette fois, les sondages ont vu juste. Il n'y avait pas de vote caché pour François Fillon, le candidat de la droite, les Républicains, dont certains experts avançaient qu'il valait François Fillon bien plus en réalité que les 20% dont il était crédité et qu'il serait à coup sûr au second tour. Eh bien non, l'ancien Premier ministre n'a même pas atteint cette barre de 20%, 19,9% pour François Fillon. Un terrible coup dur pour la droite, à qui, il y a quelques mois encore, cette présidentielle semblait promise. Nous allons y revenir tout à l'heure. Juste derrière François Fillon, en quatrième position, vous trouvez la révélation de ce premier tour, incontestablement, Jean-Luc Mélenchon, 19,6% pour lui, 8 points de plus qu'en 2012, lorsqu'il s'était déjà présenté Jean-Luc Mélenchon. Mais cela n'a pas suffi, tout comme François Fillon, malgré pour Jean-Luc Mélenchon une dynamique incroyable dans le dernier mois de sa campagne. Jean-Luc Mélenchon et sa France insoumise ne seront pas au second tour. Derrière ces quatre-là, les 7 autres candidats, eh bien, il y a là un gouffre derrière le quatuor Macron-Le Pen, Fillon-Mélenchon. Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste, ne rassemble que 6,3% des voix. Une débâcle historique pour le candidat PS. Le Parti Socialiste, parti du président sortant, François Hollande. À la lecture du score de Benoît Hamon, on comprend mieux peut-être pourquoi le chef de l'État a renoncé à briguer un second mandat. En sixième position, le candidat souverainiste de Debout la République, Nicolas Dupont atteignant 4,7% des voix qui auront manqué à François Fillon pour se qualifier pour le second tour, étant entendu que ces deux-là, Nicolas Dupont-Aignan et François Fillon, partageaient beaucoup d'idées. Et puis, les 5 derniers candidats. Le député Jean Lassalle, 1,2. Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste, 1,1. François Asselineau, 0,9%. Nathalie Arthaud, de Lutte ouvrière, 0,6 pour elle. Et bon dernier, Jacques Cheminade, qui se situe dans les mêmes eaux que les 2 autres fois où il s'est déjà porté candidat à l'élection présidentielle. 0,18% pour Jacques Cheminade, ce qui représente 65 000 voix tout de même. Quelques chiffres encore pour vous dire que les votes blancs correspondent à 1,8% des électeurs qui se sont déplacés lors de ce premier tour, ce qui est tout sauf négligeable. 1,8%, près de 2% des électeurs qui n'ont pas souhaité finalement voter pour l'un des 11 candidats, mais qui tenait à l'exprimer dans les urnes. Quant au taux de participation ou taux d'abstention, c'est selon, l'abstention pour cette présidentielle 2017, elle s'est élevée à un peu plus de 21%, autrement dit près de 79% des 47 millions de Français qui étaient inscrits sur les listes électorales sont allés voter. C'est un peu moins que lors des présidentielles de 2007 et 2012, mais c'est une très bonne fourchette. Il y a eu une forte mobilisation avec en gros 4 électeurs sur 5 qui sont allés voter.
Voilà pour les chiffres bruts, Frédéric. Maintenant, si on essaye d'analyser les résultats de ce premier tour, tout d'abord, revenons sur le pari réussi d'Emmanuel Macron.
Oui, quel pari, celui d'Emmanuel Macron, pari réussi, lui qui a lancé il y a tout juste un an son mouvement En Marche, alors qu'il était encore au gouvernement, qu'il était ministre, ministre de l'économie du gouvernement dirigé par Manuel Valls. Un an plus tard, le voilà Emmanuel Macron en tête à l'issue du premier tour de la présidentielle, en passe de devenir le 7 mai prochain président de la République. Emmanuel Macron qui jusque-là, jusqu'à maintenant, n'a jamais été élu. Il a su sentir les choses. En août dernier, il a remis sa démission, il a quitté le gouvernement. Et quelques mois plus tard, alors que le président François Hollande, qui depuis 3-4 ans couvait Emmanuel Macron comme son fils spirituel, alors que le président François Hollande était au plus bas dans les sondages et qu'il n'en finissait pas de se demander s'il devait ou pas se représenter, quelle stratégie devait-il adopter ? Emmanuel Macron lui a coupé l'herbe sous le pied. Il a foncé, il s'est déclaré candidat, poussant indirectement, c'est l'un des facteurs, en tout cas qui y ont assurément contribué, poussant le chef de l'État à renoncer à sa candidature. Emmanuel Macron, lui, n'y a pas réfléchi. À deux fois, il s'est lancé, il veut se placer au-dessus des partis traditionnels. Il se revendique ni de droite, ni de gauche, mais de droite et de gauche. Il a bien vu qu'il n'avait aucun intérêt à passer par la primaire de la gauche qui allait finalement écarter Manuel Valls et choisir Benoît Hamon comme candidat. Il a tracé son sillon, comme le faisait Jean-Luc Mélenchon de son côté, présenté comme le chouchou des médias. Emmanuel Macron a rallié tout au long de la campagne des soutiens de choix, François Bayrou, le centriste, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, qui est sans doute le dernier membre du gouvernement, le dernier socialiste qui jouit encore d'une image positive dans l'opinion. Des ralliements de gauche, du centre, de droite, Emmanuel Macron a su bénéficier de la campagne plombée de François Fillon, bien entendu, rattrapé par les affaires et sa mise en examen, François Fillon, ainsi que son épouse Pénélope, pour des accusations d'emploi fictif et de détournement d'argent. Emmanuel Macron a su capitaliser tous ces facteurs. À 39 ans seulement, il a drainé derrière lui un électorat jeune. Il a fait le plein des voix chez les cadres et dans les professions intermédiaires. Il arrive largement en tête dans les grandes villes. Un incroyable pari réussi pour lui et pour les dizaines, les centaines de milliers de personnes qui ont rejoint, qui continuent de rejoindre son mouvement En Marche. Il a fait éclater le système traditionnel avec le PS qui, comme en 2002, n'aura pas de candidat au second tour et la droite classique qui connaît, elle, cet affront pour la première fois sous la Ve République. Seul bémol concernant Emmanuel Macron, seule précision qu'il faut apporter, Emmanuel Macron est arrivé en tête, mais ses 23,9% ne représentent pas un quart des votants et que 18% des inscrits. En 2012, par comparaison, François Hollande et Nicolas Sarkozy avaient recueilli respectivement 28% et 27% au premier tour. Idem en 2007 avec un Nicolas Sarkozy, futur président, à 31% au premier tour et une Ségolène Royal à près de 26%. Là, la base de départ d'Emmanuel Macron est plus faible, un paramètre avec lequel, bien évidemment, il devra compter, car le président, une fois élu, est le président de tous les Français.
Emmanuel Macron, qui sera donc opposé à Marine Le Pen le 7 mai prochain, elle aussi a réussi son pari, même si son score est un peu moins élevé que ce qu'elle espérait.
Marine Le Pen, oui, qui a longtemps été créditée de plus de 25% d'intention de vote, c'est ce que nous rapportaient les enquêtes d'opinion depuis des mois, elle doit se contenter, entre guillemets, de 21,4. Il va être très difficile pour elle d'élargir son électorat d'ici le second tour. Le FN pensait pouvoir au moins basculer en tête, c'était l'objectif, mais la fin de campagne de la candidate d'extrême droite a été difficile. Certains de ses thèmes favoris, la contestation de l'Europe, par exemple, de l'Union européenne, ont été repris par plusieurs candidats, des petits candidats qui en ont fait eux aussi leur fonds de commerce. Idem pour l'immigration dans une certaine mesure. Donc oui, le Front National est en deçà de ses scores des dernières années, les 25% aux élections européennes de 2014, les 27% aux régionales de 2015, mais le Front National reste plus que jamais installé dans le paysage politique français, avec des scores extrêmement élevés dans les régions du nord-est de la France, dans le sud-est de la France également, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où Marine Le Pen est arrivée en tête. Elle fait mieux que François Fillon, la voilà au second tour de la présidentielle, comme son père, Jean-Marie Le Pen, en 2002. Mais son socle est bien plus important. Il en dit long sur l'état de la société française. En 2002, Jean-Marie Le Pen avait obtenu 16,86% au premier tour et moins de 18% au second tour face à Jacques Chirac, qui avait été réélu avec un score de 82%, avec un front républicain qui s'était opposé à Jean-Marie Le Pen. Cette fois, la donne est différente. Certes, Marine Le Pen ne semble pas en mesure de l'emporter. Le rapport de force, selon les projections, serait plus de l'ordre de 65-35, 60-40 en faveur d'Emmanuel Macron. Ce dernier ayant déjà reçu des soutiens de poids depuis dimanche soir, celui du président de la République, François Hollande. Je voterai Emmanuel Macron, celui qui défend des valeurs permettant le rassemblement des Français. C'est ce qu'a dit ce lundi François Hollande. François Fillon, candidat malheureux de la droite, a aussi apporté des dimanche soir son soutien à Emmanuel Macron. Idem pour Benoît Hamon. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, et c'est plus de 19% du premier tour, refuse de se prononcer. Et il pourrait y avoir énormément de votes blancs ou votes nuls au second tour, avec certes des millions et millions de Français qui ne peuvent pas imaginer une victoire de Marine Le Pen, mais aussi des millions d'autres qui ne se reconnaissent pas forcément dans la personne d'Emmanuel Macron, qui incarne à leurs yeux la finance, le système libéral, cette mondialisation qui laisse sur la route des millions de citoyens. Donc jusqu'au bout, Marine Le Pen va jouer sa carte dans cet entre-deux-tours, avec un rendez-vous, celui du 3 mai, en début de semaine prochaine, le débat télévisé de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Pour terminer, Frédéric, si on décrypte ces résultats, la désillusion de François Fillon et de Benoît Hamon incarne la fin d'un système.
Ils représentaient tous deux les deux grands partis traditionnels des 40 dernières années. Les Républicains, ex-UMP et avant RPR pour François Fillon, ce parti qui a conduit Jacques Chirac deux fois à l'Élysée et Nicolas Sarkozy à une reprise, et le Parti Socialiste pour Benoît Hamon, le PS et les deux septennats de François Mitterrand et le quinquennat de François Hollande qui s'achève. Depuis le début des années 80, la vie politique française était organisée autour de ces deux piliers. La droite, RPR, UMP, les Républicains, et la gauche, Parti Socialiste. Ils se sont partagés le pouvoir pendant près de 40 ans, mais ce système-là vient d'exploser ce 23 avril. Ces deux partis qui ont organisé une primaire pour désigner leurs candidats se retrouvent sur la touche, là où Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas passés, eux, par une primaire. Il y aura à ce titre, pour les différents partis politiques, beaucoup d'enseignements à en tirer pour le futur. Cela dit, la situation n'est pas tout à fait la même pour François Fillon et pour Benoît Hamon. François Fillon a avant tout été victime des affaires qui l'ont rattrapé durant la campagne. Quand les révélations sont arrivées dans la presse en janvier, les révélations du Canard Enchaîné, le journal satirique, sur des emplois présumés fictifs d'attachés parlementaires dont aurait bénéficié pendant 20 ans l'épouse de François Fillon. Il y a eu d'autres révélations du genre. Il était encore très haut dans les sondages avant qu'arrive cette salve de nouvelles, jusqu'à 28% pour François Fillon, mais les révélations en cascade ont complètement plombé sa campagne et son message, lui qui se présentait comme incorruptible et qui voulait expliquer aux Français qu'il allait falloir se serrer la ceinture, qu'il supprimerait 600 000 fonctionnaires en 5 ans s'il était élu. Le message de François Fillon est soudainement devenu inaudible. Il a refusé de renoncer à sa candidature, François Fillon, malgré les pressions dans son propre camp, lui qui a été mis en examen par la justice. Son camp, la droite, n'est pas parvenu à imposer un plan B et l'élection imperdable après le quinquennat de gauche de François Hollande qui s'achève, cette élection est devenue une bérésina. La droite espère rebondir aux élections législatives du mois de juin, celles qui vont suivre cette présidentielle et qui vont nous donner la carte de l'Assemblée nationale. Ces élections vont être décisives, bien entendu, pour savoir comment pourra gouverner le prochain président. François Fillon a bien compris, en tout cas, que ce ne serait pas avec lui en tête de gondole que la droite allait mener campagne. Ce lundi, il a reconnu devant les responsables de son parti, les Républicains, qu'il n'avait plus, a-t-il dit, la légitimité pour livrer le combat des législatives. La droite qui espère sauver les meubles lors de ces élections législatives en élisant bien entendu le plus de députés possible. Pour le PS, pour le Parti Socialiste et Benoît Hamon, son candidat, il n'y a pas eu d'affaire, simplement un terrible désaveu. La plupart des poids lourds du Parti Socialiste ont refusé de soutenir le candidat de leur parti, bien qu'il ait gagné la primaire, préférant le silence ou l'allégeance à Emmanuel Macron. Du coup, Benoît Hamon, qui avait quitté le gouvernement en 2014 alors qu'il était ministre de l'Éducation pour protester contre le virage libéral du quinquennat, n'est pas parvenu à réunir la gauche sociale derrière lui. Ces frondeurs qui ont enquiquiné François Hollande durant la deuxième partie de son quinquennat. La campagne de Benoît Hamon a été une lente descente aux enfers avec des électeurs de gauche, la gauche de la gauche, qui ont préféré aller chez un Jean-Luc Mélenchon et sa France insoumise. 6,35% des voix pour Benoît Hamon. Le Parti Socialiste, au soir de ce premier tour, se retrouve marginalisé comme jamais, avec peut-être un destin sinistre qui se profile à l'image du Parti communiste qui s'est lentement érodé dans les années 80 puis 90. Quel avenir pour le PS ? Les socialistes sont écartelés, ils se retrouvent aujourd'hui coincés entre la vision d'un Jean-Luc Mélenchon ou celle d'un Emmanuel Macron.
Eh bien voilà, merci à vous Frédéric pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne journée, à bientôt.
Merci, à bientôt.